Bonjour et bienvenue à tous sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission proposée par Virginie Boer et Michel Clément. Aujourd'hui, nous faisons un grand bond dans le passé pour évoquer la passion que les empereurs grecs et romains ont vouée au cheval. Ce dernier est le compagnon de l'empereur, il combat avec lui et participe à sa gloire comme à ses défaites. Les pièces de monnaie, les bas-reliefs et les mosaïques qui ont survécu au passage du temps sont là pour en témoigner. Alors on ne peut pas commencer une telle émission sans évoquer Alexandre le Grand et son cheval Bucéphale, car ils sont entrés dans la légende. On sait que le roi Philippe de Macédoine, lorsqu'il vit son fils Alexandre monter ce cheval réputé indomptable, y vit un signe de la future grandeur de son fils. Alexandre monta Bucéphale au cours de toutes ses batailles. C'est d'ailleurs au cours de l'une d'elles, la bataille d'Hippaz, en l'an 326 avant Jésus-Christ, que le cheval mourut. Tous les auteurs s'accordent sur cela, même si pour certains il fut mortellement blessé, alors que pour d'autres, il mourut d'épuisement dû à son grand âge. Toujours est-il qu'Alexandre est effondré, comme s'il avait perdu un proche ou un ami, écrit Plutarque. Il lui fit construire un tombeau et bâtit une cité en son honneur, Alexandre Bouképhalos, ou Bucéphalie, à proximité de la ville moderne de Jhelum, au Pendjab pakistanais. Un médaillon en argent frappé à l'époque commémore la bataille et l'on y voit Alexandre monter sur un bucéphale cabré, poursuivant le roi Poros sur son éléphant. Le cheval était un tel symbole pour l'armée d'Alexandre qu'on dit qu'elle refusa de le suivre dans sa conquête de l'Asie après sa mort et effectivement, sa conquête s'arrêta là. Nous partons maintenant pour l'Empire romain. Suétone, dans la vie des 12 Césars, publiée au début du IIe siècle de notre ère, dresse le portrait des premiers dirigeants romains ayant porté le nom de César. Ce dernier, s'il est d'abord l'un des noms de famille du célèbre dictateur Jules César, alors attention, sous la République romaine, un dictateur est un magistrat extraordinaire qui détient les pleins pouvoirs. Donc ce nom César devient un des titres portés par les empereurs romains qui suivront. Suétone nous raconte donc que Jules César possédait un cheval qu'il adorait. Je le cite. Il montait un cheval remarquable dont les pieds rappelaient la forme humaine et dont le sabot fendu offrait l'apparence de doigts. Ce cheval était né dans sa maison et les aruspices, les devins romains, avaient annoncé qu'il présageait l'empire du monde à son maître. Aussi l'éleva-t-il avec grand soin. César fut le premier, le seul, qui dompta la fierté rebelle de ce coursier. Dans la suite, il lui érigea une statue devant le temple de Vénus Génétrix. Alors, le temple de Vénus Génétrix, c'est celui de la famille Julia à laquelle appartient Jules César. On pense que ce cheval, dont je n'ai pas pu trouver le nom, était probablement un cheval barbe, car on sait que l'empereur en montait, car la race avait les faveurs de l'armée romaine. Alors, toujours selon Suétone, il est un autre empereur qui entretenait des rapports exceptionnels avec son cheval, Caligula. Devenu empereur en l'an 37 de notre ère, il avait décidé de nommer consul son cheval Incitatus. Incitatus avait une écurie en marbre avec une mangeoire en ivoire, des couvertures couleur pourpre, signe d'honneur et de pouvoir, ainsi que des licols ou des brides garnies de pierres précieuses. Selon l'historien romain Dion Cassius, qui vécut entre l'an 155 et l'an 235 de notre ère, le cheval avait ses propres serviteurs ainsi que son mobilier. Il mangeait de l'avoine mélangée à des flocons d'or. L'empereur Caligula aimait également recevoir ses amis dans l'écurie de son cheval. Les historiens contemporains ne voient pas dans ce comportement un signe de folie, comme cela a été le cas dans l'Antiquité et ce jusqu'à la fin du XXe siècle. Rappelons que Suétone est né 30 ans après la mort de Caligula et qu'il rapportait des rumeurs, notamment pour discréditer la famille de l'empereur. Ce désir de faire de son cheval un consul, ce qu'il ne fit d'ailleurs pas, serait plutôt l'expression de l'humour de Caligula, qui se moquait des sénateurs qui lui étaient hostiles, en suggérant qu'un cheval pouvait remplir les mêmes devoirs qu'eux. L'histoire Auguste couvre la vie des empereurs romains et des usurpateurs de l'an 117 à l'an 285. Alors, pour un petit rappel, les usurpateurs sont ces soldats ou généraux qui se font proclamer empereurs par l'armée ou le sénat, pour renverser l'empereur en fonction. Dans cet ouvrage, l'histoire Auguste, nous apprenons que l'empereur Lucius Versus, qui régna de l'an 161 à 169, avait une passion pour les courses de chars et avait fait réaliser une statuette en or du cheval Volucère, statuette qu'il emportait toujours avec lui. Les courses de chars étaient une très populaire activité sous l'Antiquité et il y avait quatre factions à Rome, c'est-à-dire quatre compagnies de conducteurs de chars, les blancs, les bleus, les verts et les rouges. Volucère appartenait à la faction des Verts. Lucius Versus n'est pas le seul empereur qui ait été fasciné par un cheval de course. Au IVe siècle, le poète Ausone rédige une épitaphe pour un cheval du nom de Phosphorus qui s'est illustré lors des Jeux du Cirque. Celle-ci lui a été commandée par l'empereur qui aimait les chevaux et fit élever un tombeau à son propre cheval. Alors je vais vous lire maintenant le texte d'Ausone. Pour un cheval admirable par ordre de l'Auguste. Phosphorus, tu parcourais toujours vainqueur aux acclamations du cirque les sept tours de sa vaste carrière. Tu modérais ton premier élan en sortant de la barrière pour dépasser ensuite avec plus de vigueur les coursiers qui t'avaient précédé. Tu devançais sans peine les rapides quadriges et tu mettais de préférence ta gloire à vaincre les vainqueurs eux-mêmes. Reçois ces vers pour te consoler de la vanité du sépulcre. Et vole avec vitesse vers les coursiers ailés de l'Élysée. Là que Pégase court à ta droite, à la volée, Arion à gauche, le quatrième, que Castor te le donne. Alors, pour bien comprendre ces lignes, il faut se souvenir que dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées sont les lieux des enfers où séjournent et se reposent les héros et les gens vertueux après leur mort. Les deux autres coursiers nommés par Ausone sont Pégase et Arion, deux chevaux mythologiques. Pégase est le plus célèbre, tout le monde connaît ce cheval ailé, fils de Poséidon, dieu de la mer et des océans, né du sang de la gorgone Méduse après qu'elle ait été décapitée par le héros Persée. Arion est un cheval immortel, doué de la parole. Son origine est discutée, pour certains il est le fils du roi des dieux, Zeus, et de la déesse des moissons Déméter. Pour d'autres, il est le fils de Gaïa, la terre-mère. En tout cas, Arion était le cheval le plus rapide du monde et se nourrissait d'or. Quant à Castor, dont le nom apparaît dans l'épitaphe, il s'agit du frère jumeau de Pollux, fils de Zeus et de la reine Léda, qui séjourne aux enfers après avoir été tué par Idas. Cette épitaphe divinise donc Phosphorus en le hissant au rang des chevaux mythologiques auprès desquels il serait attelé à un char divin. Nous allons maintenant faire une petite pause en écoutant un extrait de la bande originale écrite par Vangelis pour le film Alexandre, consacré à Alexandre le Grand. Je vous propose de découvrir maintenant un autre cheval appartenant à un empereur romain. Il s'agit de Borysthène. Nous connaissons ce cheval grâce à un poème que lui a adressé Adrien. Tout d'abord, quelques mots sur cet empereur. Il a régné de l'an 117 à l'an 138 et a passé plus de 10 ans à parcourir l'Empire afin de l'organiser et de le pacifier. C'est lui qui a fait construire le fameux mur qui porte son nom au nord de la Bretagne. Alors la Bretagne, c'est la Grande-Bretagne romaine. L'Empire s'étend en effet de l'Écosse au Sahara, des Carpates à la Libye, de la mer Noire au Soudan. De 121 à 125, Adrien voyage de la Germanie à la Bretagne et séjourne à son retour en Gaule entre 122 et 123. C'est au cours de ce voyage que serait mort son cheval Borysthène dans les environs de la ville d'Apt. Adrien lui fait ériger un mausolée à 4 km au sud-ouest d'Apt, non loin du chemin qui menait d'Apta Julia, une cité romaine qui donnera naissance à Apt, et Aqua Sextiae, c'est-à-dire Aix-en-Provence, qui a été la première ville romaine fondée en Gaule. Alors avec le temps, le mausolée a disparu, mais deux fragments de marbre de l'inscription ont été mis à jour au début du XVIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle. Un premier fragment comprend les 8 premières lignes du poème et aurait été retrouvé dans un champ du quartier des Tourettes en 1623. Les dates et les lieux divergent par contre. Le second fragment, avec la dernière ligne de l'épitaphe, a été découvert par Esprit Calvé, un collectionneur avignonnais, dans l'écurie d'une auberge près de la ville d'Apt. Puis, ce morceau a disparu. En 2004, l'archéologue Patrick de Michel, lors d'une visite dans les réserves du musée d'Avignon, a eu l'idée de passer la main derrière la face gravée d'un sarcophage datant de l'époque des premiers chrétiens, c'est-à-dire entre l'an 200 et 500. Et là, il sentit la marque d'une sculpture. C'était la dernière partie de l'inscription que l'on croyait perdue. Alors, comme le soulignent les textes de l'Antiquité, dont toujours l'histoire Auguste, Adrien, je cite, « aima les chevaux et les chiens au point de leur ériger des tombeaux ». Et nous en avons la preuve ici. Cet empereur, qui était un lettré, a composé donc une épitaphe en l'honneur de son cheval, dont voici la traduction. « Borysthène, coursier alain de l'empereur, qui a son habitude volé à travers la plaine, les marais et les hauteurs de l'Étrurie à la poursuite des sangliers de Pannonie. Nul sanglier n'osa lui porter un coup de ses blanches défenses tandis qu'il le pourchassait, ou répandre l'écume de sa bouche sur l'extrémité de sa queue, comme souvent il arrive. » Mais dans la fleur de sa jeunesse, sans que nulle blessure ait souillé ses membres, il est mort à son heure et repose dans ce champ. Alors ce texte nous donne quelques informations sur l'origine de Borysthène, puisqu'il est indiqué que c'est un cheval alain. Alors les alains sont des cavaliers nomades des steppes, d'origine scythe, qui vivaient entre le Don et la mer d'Azov dans le Caucase. Alors ils se sont déplacés, beaucoup, puisqu'ils sont venus en Gaule, qu'ils ont été en Hispanie et en Afrique. On sait, toujours grâce à l'histoire Auguste, qu'un cheval merveilleux faisait partie d'un butin pris aux alains. Peut-être est-ce ainsi que Borysthène, comme le cheval qui est mentionné dans ce texte, parvint dans les mains d'Adrien. Nous apprenons également qu'il était le cheval de chasse de l'empereur. Adrien avait une véritable passion pour la chasse. Le texte nous dit qu'il chasse le sanglier, mais il aimait également chasser l'ours ou le lion. Alors la chasse n'est pas qu'un passe-temps pour lui, car c'est l'image du chasseur qu'il souhaitait donner de lui et non plus celle d'un guerrier comme les précédents empereurs. C'est également l'image de ce qu'on appelle la virtus chez les Romains, c'est-à-dire une des principales vertus romaines comprenant des notions de vaillance, de virilité, d'excellence, de courage et de caractère. Par ailleurs, il n'est plus cet empereur lointain que les habitants des provinces ne connaissaient que grâce à leurs effigies sur les monnaies ou aux statues, comme ce fut le cas donc de tous ses prédécesseurs. Car en séjournant dans les provinces de l'Empire, l'empereur devient visible. Alors l'importance de Borysthène pour Adrien n'est pas uniquement liée à son poème, mais elle est illustrée par un médaillon qu'on a retrouvé. Alors sur une des faces est représenté Antinous, qui était le favori de l'empereur, et sur l'autre Borysthène. Représentation de ces deux personnages que l'on retrouvera également en effigie sur des pièces de monnaie datant de l'époque d'Adrien. Alors l'histoire de Borysthène et d'Adrien a inspiré la romancière Marguerite Yourcenar dans son très beau roman « Mémoire d'Adrien ». Elle y donne la parole au vieil empereur malade à travers une longue lettre écrite à son neveu, le futur Marc Aurèle. Adrien, sous la plume de Marguerite Yourcenar, y évoque le passé et son cheval. Alors je vous lis ce passage. « Le renoncement au cheval est un sacrifice plus pénible encore. Un fauve n'est qu'un adversaire, mais un cheval est un ami. Si on m'avait laissé le choix de ma condition, j'eusse opté pour celle du centaure. Entre Boristan et moi, les rapports étaient d'une netteté mathématique. Il m'obéissait comme à son cerveau et non comme à son maître. Ai-je jamais obtenu qu'un homme en fît autant? Une autorité si totale comporte, comme tout autre, ses risques d'erreur pour l'homme qui l'exerce. Mais le plaisir de tenter l'impossible en fait de saut d'obstacle était trop grand pour regretter une épaule démise ou une côte rompue. Mon cheval remplaçait les 1000 notions approchées du titre, de la fonction, du nom qui compliquent l'amitié humaine par la seule connaissance de mon juste poids d'homme. Il était de moitié dans mes élans. Il savait exactement, et mieux que moi-même peut-être, le point où ma volonté divorçait d'avec ma force. » Quand on entre dans la période tardive de l'Empire, on ne connaît plus le nom des chevaux des empereurs. D'ailleurs, au cours de cette période, l'armée romaine perd de son efficacité. Les cavaleries étrangères, celles des Perses et celles des Goths, se sont montrées supérieures. Et le cheval, désormais, apparaît comme l'allié de l'envahisseur. Après avoir été fêté, le voici considéré comme un ennemi. Tout un paradoxe. Cette émission touche à sa fin. Bonne semaine à tous et à toutes. En attendant de vous retrouver pour une prochaine émission des Messagers du Cheval.